Bazin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on devenir écolo tout en vivant en ville? Au lendemain de la Journée mondiale de l'environnement et à la veille de la Journée mondiale des océans, on ne va pas se mentir et vous faire un tableau de l'état de la planète. Juste un chiffre parmi d'autres, selon le tout premier et le tout dernier rapport des Nations Unies publié hier, on consomme chaque année 5000 milliards de sacs plastiques par an. Alors peut-on devenir écolo quand on vit en ville? Tri des déchets, transport, alimentation, circuit court, jardin partagé. Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Valère Correa.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chroniqueur sur France Inter et vous publiez un guide très pratique pour réussir sa transition écologique, évidemment. Changer d'air, l'air de rien, c'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Nous serons également en ligne, s'il est réveillé, à Vancouver, au Canada, avec Olivier Blond, journaliste et militant écologiste, qui publie Pour en finir avec l'écologie punitive aux éditions Grasset. Et puis également, nous serons au téléphone à Abidjan avec Loseni Togosi Diarasuba, qui appartient au réseau professionnel du développement durable. C'est un réseau d'associations ivoiriennes qui mène des actions de protection de l'environnement. Il organise, pas lui tout seul, hein, le nettoyage de la plage de Grand Bassam samedi prochain et nous en parlera, il y a du boulot. Et quant à vous, les voisins, on attend vos témoignages pour protéger l'environnement malgré l'urbanisation. Parlez-nous aussi de vos difficultés à mobiliser les élus locaux. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro de téléphone ou WhatsApp sur lequel vous pouvez poster aussi des messages audio et écrits.
La chaussure, c'est la mort de la voiture.
Les messages y passent mal.
Par exemple, l'écologie.
Bonne cause.
Mauvaise com.
T'y penses qu'ils vont te sensibiliser en te disant...
Si on continue ainsi, dans 100 ans, les ressources de l'homme auront disparu. Tu vas te soucier des mecs dans 100 ans.
Toi qui lâches même pas le mot de passe wifi à ton voisin.
D'un coup, tu vas te préoccuper de mecs qui sont même pas encore nés.
Les ressources naturelles renouvelables disponibles chaque année sont épuisées de plus en plus tôt. La principale cause de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique serait l'activité humaine.
Moi, je fais pas le tri, ça sert à rien. Les éboueurs, ils rejettent tout dans la même poubelle à la fin.
Ah ouais, t'es sûr de ça?
J'ai jamais vérifié. J'ai peur que si c'est pas vrai, je sois obligé de trier après.
7 milliards de voisins, c'est maintenant!
Voilà, petit résumé de nos contradictions à nous tous, les voisins sur Terre. Un message posté sur Facebook par Annick, qui est à Antananarivo, à Madagascar. Elle nous dit, mais tant qu'on ne résoudra pas le problème de l'exode rural, surtout dans les villes africaines, c'est la plus grosse croissance urbaine, l'écologie ne sera pas d'actualité. Et d'ailleurs, je vous le signale, comment motiver les jeunes pour qu'ils s'intéressent à l'agriculture dans un pays où les paysans vivent dans une extrême pauvreté? Ne manquez pas le reportage de notre correspondante RFI, Sarah Teto, à Madagascar, sur le futur de l'agriculture à Madagascar, à écouter sur le site rfi.fr. Effectivement, la croissance urbaine, c'est très mauvais pour l'environnement, Valère Correard.
Oui, en tout cas, selon comment elle se fait, ça peut être mauvais pour l'environnement. Je crois qu'après, on est quand même dans une époque où on n'ignore pas les enjeux essentiel du bien vivre et notamment l'environnement dans lequel on vit. Donc, croissance urbaine, oui, mais je crois qu'elle ne se fait, en tout cas, qu'elle se fait de moins en moins en ignorant totalement les enjeux environnementaux.
L'alimentation, en tout cas, c'est probablement avec la pollution le sujet qui touche le plus les citoyens dans leur vie quotidienne, aussi pour des raisons de santé. Je vous propose un reportage aux portes de Paris, dans un lieu que vous connaissez forcément bien, Valère Correard, à deux pas du périphérique, porte de Clignancourt, dans le 19e arrondissement. La recyclerie a ouvert ses portes il y a 4 ans. Ferme urbaine, restaurant, atelier de réparation, la recyclerie a transformé en fait un espace urbain en idéal d'écologie dans un quartier dense, pollué. Visite avec Marion Bocahu, une des penseuses du lieu, au micro d'Alice Milot.
Alors là, on est en train de descendre sur les quais de la recyclerie et là, on se trouve devant notre poulailler. Donc on a 17 poules qui sont ici à la recyclerie. Le but de leur présence est de manger les restes de notre restaurant. Donc ces 17 poules de races différentes valorisent à peu près 4 tonnes de déchets par an. C'est pas suffisant, elles mangent pas tous les restes de notre restaurant, mais elles sont là pour montrer que bah, une poule, c'est fabuleux, ça mange les restes du restaurant et en plus, ça nous donne des œufs tous les jours.
Et alors là, on est en hauteur, on descend donc un escalier escarpé, ouais. Et on est au-dessus
d'une voie de chemin de fer.
Tout à fait, donc on se situe dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, qui est un vrai corridor écologique et un vrai couloir de la biodiversité.
Alors pour expliquer, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui faisait le tour de Paris. Hein.
Voilà.
La gare, en fait l'ancienne gare, c'est votre restaurant.
Tout ce qu'on voit là, c'est donc une ancienne gare alors qui n'est plus en activité depuis les années 50, que nous on a réhabilité il y a bientôt 4 ans. C'est en effet notre café-restaurant. On a une carte, une formule locavore, des fournisseurs le plus possible locavore, une carte de saison, des produits bio, etc.
Alors, locavore, hein, pour expliquer, c'est consommer le plus local possible.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez des producteurs qui sont à moins d'un certain nombre de kilomètres du lieu de restauration.
Ouais. On est le plus possible avec des producteurs qui sont à 250 km autour de Paris.
On va voir le potager ?
Oui, allons-y.
On est quand même ici en plein dans un environnement purement urbain, on est en pleine ville.
Ouais.
On voit les immeubles qui sont juste au-dessus de nous, on entend les voitures. Quelles ont été pour vous les difficultés de faire exister un lieu comme ça dans la ville ?
En soi, c'était plus particulièrement sur notre ferme urbaine de faire le pari, de ne pas amener de la terre de l'extérieur et de se dire on est sur un ancien réseau ferroviaire avec potentiellement des métaux lourds, de la pollution, etc. Et on va quand même faire le pari de redonner une chance à la nature et de planter les bonnes espèces à côté des bonnes espèces en agriculture raisonnée, etc.
Pourquoi cette exigence d'utiliser la terre qu'il y avait sur place en fait ? Pourquoi c'était important ça pour vous ?
Parce qu'on voulait justement prouver qu'on pouvait faire quelque chose avec la terre qui existait en zone urbaine. On peut produire en zone urbaine, on peut faire une agriculture urbaine innovante, c'est aussi le futur d'un Paris qui était agricole il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a combien de temps ?
Au siècle dernier, Paris était hyper réputé pour ses techniques de maraîchage et très vite, en quelques dizaines d'années, l'industrialisation a fait oublier tout ça, mais on est à la base un pays déjà d'agriculteurs et une région qui faisait beaucoup ça, donc on est juste en train de revenir avec un peu de bon sens, mais en tout cas c'était très important pour nous de montrer que c'était possible et que finalement avec une agriculture raisonnée, sans utiliser de pesticides, avec des méthodes naturelles, au final on pouvait produire quelques dizaines de kilos de légumes sur une petite parcelle et alors certes ça ne suffit pas à nourrir les 200 couverts de notre restaurant, mais en tout cas on a des plantes aromatiques, des fleurs comestibles, des légumes oubliés qu'on cultive dans notre potager en complément de bien sûr de nos producteurs locaux, mais c'est une vraie victoire.
On continue ?
Ouais.
Alors là, donc on longe la voie ferrée.
Donc là, on se trouve devant notre compost. Et donc, dans notre compost de 5 mètres cubes, nous valorisons les déchets organiques de notre restaurant, de notre bar. Donc, épluchures, thé, café en vrac, bissap en vrac, etc. Et on valorise également les déchets organiques des riverains. Puisque quand vous êtes adhérent de l'association Les Amis Recycleurs, qui porte tout le projet pédagogique de la recyclerie, vous pouvez prendre un seau, un bio-seau chez vous. Vous voyez, c'est le seau vert que vous apercevez là-bas. Vous posez ça dans votre cuisine, vous mettez vos déchets organiques dedans. Donc vraiment, pour simplifier, on est sur épluchures de fruits et légumes, coquilles d'œufs, petits végétaux, pas d'agrumes, pas de restes carnés, etc., ni de poissons. Et ensuite, vous nous amenez ça une fois que c'est plein. Et nous, on veut juste changer l'état d'esprit des gens en leur faisant comprendre que c'est de la valeur et pas des déchets. Et du coup, on vous offre un café quand vous nous amenez ça. Voilà, donc c'est...
À chaque poubelle apportée.
C'est ça, c'est un petit détail, mais en fait, c'est vraiment pour faire comprendre que c'est de la valeur et que nous, on va transformer ça. Alors, dans nos petits moyens, hein, on est limité malheureusement des seaux. On en a entre 75 et 100 en circulation, mais on les limite parce qu'en fait, on a un tel engouement dans le quartier. C'est quelque chose que la ville de Paris est en train de tester dans les 2e et 12e arrondissements, d'avoir les déchets organiques en fait dans votre cour d'immeuble. Nous, on le récupère, mais il y a plein d'autres jardins partagés dans Paris qui peuvent le récupérer. Vous pouvez aussi avoir un lombré composteur sur votre balcon. Vous pouvez installer ça dans la cour de votre immeuble si vous en avez une. Et l'idée, c'est qu'au bout de... Alors, c'est plutôt un an pour un compost comme ça. Un lombricomposteur, ça va aller plus vite. Mais à la fin, vous avez un terreau hyper fertile. On invite nos adhérents à venir jardiner avec nous tous les vendredis après-midi, à venir comprendre, poser des questions pour être un peu plus sensible à tout ça et voir que c'est pas très compliqué et qu'en fait, on pourrait le faire partout. C'est des petits réflexes.
Pour vous, faire l'effort de mettre cette petite poubelle dans sa cuisine, et il faut préciser que les petites cuisines parisiennes sont souvent très 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 petites.
Oui.
Pour vous, c'est un véritable acte écolo-citoyen ou est-ce que quelque part, c'est pas juste se donner bonne conscience ?
Alors non, moi je suis persuadée que c'est un acte éco-citoyen et que des comme ça, il y en a plein. Et ce qu'on revendique à la recyclerie, c'est vraiment de pouvoir être un centre de ressources et de pouvoir donner des astuces et des manières de changer la société en une société plus durable, plus raisonnée, plus responsable. Donc on pense qu'il y a 36 000 communes en France et qu'il pourrait y avoir 36 000 recycleries. Et si on le fait tous, en fait, ça va faire changer les choses.
7 milliards de voisins, Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Valère Coréard, vous publiez Changer d'air, l'air de rien, un guide pratique pour réussir sa transition. Des lieux comme la recyclerie, il n'y en a pas beaucoup encore dans les villes françaises.
Il y en a de plus en plus. Après, c'est un peu un aboutissement, enfin un premier aboutissement. La recyclerie, c'est un lieu, j'allais dire, expérimental, qui va assez loin dans cette démarche de sensibilisation, de changement de paradigme, d'ouverture sur les initiatives et les solutions en la matière. Mais en réalité, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un restaurant dans lequel on vous refuse, par exemple, de partir avec ce qu'on appelle couramment un doggy bag ou un gourmet bag?
D'autant plus que maintenant, c'est acté dans la nouvelle loi
alimentation. Oui, ça va l'être, mais ils le font. Alors, c'est pas une solution parfaite, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a désormais l'intégration. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour l'urbanisation. Il y a l'intégration maintenant. Il y a un changement de paradigme qui est en cours.
L'agriculture urbaine, comment ça peut réellement s'articuler avec la problématique de l'alimentation pour les consommateurs que nous sommes? Est-ce que ça ne reste pas quelque chose qui est très à la marge dans l'approvisionnement des consommateurs qui vivent en ville, même quand ça se développe?
Ah, c'est bien sûr que c'est à la marge, mais il faut commencer par quelque chose. Là aussi, c'est le début d'un changement de paradigme qui consiste à intégrer le fait qu'on peut, sinon s'auto-alimenter, être en autonomie alimentaire, s'alimenter en circuit très court, y compris dans un environnement urbain. Et ça concerne tous les continents, tous les pays. Je pense notamment à une start-up en Afrique du Sud qui s'appelle Umjibe, qui a été créée il y a quelques années et qui permet aujourd'hui à 600 familles des townships de manger avec des sacs plastiques dans lesquels ils cultivent sur les toits des fruits et des légumes. Et donc ça fait évidemment à des coûts absolument dérisoires. Et le modèle qui est fait de planches de bois a même été breveté. Donc voilà, c'est un exemple de débrouille au départ qui peut s'essaimer et se généraliser.
Alors nous sommes également en ligne avec Olivier Blond, qui est au téléphone avec nous de Vancouver au Canada. Bonjour Olivier Blond.
Bonjour.
Vous publiez Pour en finir avec l'écologie punitive. On entendait dans le reportage là, des citoyens, enfin le lieu, la recyclerie, qui ne peut pas faire face à l'engouement des citoyens et fournir assez de poubelles à compost. Pendant très longtemps, on a dit, en tout cas en Europe, que c'était très difficile de faire changer les comportements des citoyens. En réalité, est-ce qu'aujourd'hui, les blocages, les inerties ne se situent pas davantage au niveau des gouvernances, selon vous ?
En tout cas, il y a une chose qui est sûre et qui ira dans le sens de ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a un changement de paradigme, pour reprendre ce terme, mais au sens où, pendant des années, l'écologie était une écologie de lanceurs d'alerte. Il fallait attirer l'attention sur plein de problèmes, de catastrophes. Et aujourd'hui, l'écologie, elle est vraiment en train de se transformer. Cette première phase, elle a été, d'une certaine manière, elle a réussi. La prise de conscience, elle est mondiale. Et aujourd'hui, l'écologie, elle entre dans une phase où c'est une écologie de solution. Il faut trouver des problèmes, des moyens de résoudre les problèmes. Et ça, c'est très, très important. Parce que ça change la manière dont on va parler de l'écologie.
C'est exactement le but de votre guide pratique, d'ailleurs, à vous aussi, hein, Valère Coréard. C'est vraiment une écologie de solution.
Oui, je le répète ces derniers temps dans les médias quand je suis invité. Je reprends un terme que j'ai lu dans je ne sais plus quel ouvrage. Je parle d'égologie. C'est-à-dire finalement...
Égologie. C'est-à-dire ma petite écologie à moi.
Ben non, c'est-à-dire qu'on arrête de penser à l'écologie comme un altruisme ou un sacrifice et on considère que penser à soi, c'est penser écologie. C'est-à-dire c'est parce que je vais vouloir reprendre le contrôle de mon assiette parce que je mange 4 fois par jour et que je m'inquiète de ce qu'on met dedans, que je vais repenser la façon de faire mes courses, le temps que j'alloue à mon alimentation et par voie de conséquence, je vais avoir un comportement plus écologique puisque je vais être davantage en circuit court, peut-être plus tourné vers la bio, peut-être mettre la viande un peu de côté. Voilà, c'est-à-dire qu'en pensant à soi, on pense finalement aux autres. Et le point d'entrée est différent. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon ouvrage.
Mais Olivier Blond, quand on voit la loi alimentation en France qui annonce une série quand même de renoncements, de déceptions, pas d'interdiction du glyphosate, pas d'interdiction des épandages chimiques à proximité des habitations... alors certes, il y a 50% de produits bio dans les cantines, mais est-ce qu'on n'est pas dans une conception à deux vitesses? D'un côté, la communication politique, et puis de l'autre, les vrais choix audacieux qui sont bien souvent délaissés, en tout cas laissés au second plan, derrière les intérêts financiers.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème au niveau politique et que les gestes individuels ne suffisent pas. Il faudrait passer à quelque chose de plus important. Il faudrait que tous ces gestes individuels puissent être associés en un mouvement global, collectif. Et de ce point de vue-là, on attend une réponse et une initiative et même un leadership du point de vue politique. Mais on est vraiment d'accord, je pense, avec Valère. Quand je parle d'écologie punitive, c'est justement pour dénoncer d'une certaine manière l'ancienne vision de l'écologie, cette écologie qui appelle justement au nom d'idéologie et d'idéaux, même tout simplement sympathiques, donc au nom de l'écologie, de la préservation de la planète, qui appelle chacun à faire des choses qui vont être négatives, qui vont aller à l'inverse de ses intérêts individuels, et je pense qu'il est important de changer cette vision de l'écologie et de faire appel à des positions positives.
Vous séjournez en ce moment à Vancouver, 8e ville du Canada, qui oui. s'est longtemps voulu fait, la vitrine
en fait,
de
l'écologie. Pardon,
pardon.
Et je suis un petit peu fatigué avec le décalage horaire, pardon.
Non, mais c'est parfait. Mais c'est une ville qui se veut la vitrine de l'écologie, qui a une longue tradition depuis près de 20 ans d'activisme écologiste et décroissant. Quelle est la réalité quand on découvre cette ville par rapport à une capitale européenne ?
La première constatation qu'on fait, mais immédiatement en descendant de l'avion, c'est la proximité de la nature. Mmh. Et la ville de Vancouver s'est construite sur un rapport avec la nature qu'on a parfois perdu dans les grandes métropoles, en tout cas en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rôle de leadership des villes qu'on peut voir à Vancouver, mais qu'on peut voir dans d'autres pays, à Paris ou en France ou aux États-Unis, avec des villes qui décident de continuer leur combat pour l'environnement malgré les décisions politiques, elles se retrouvent aussi au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, à Vancouver, il y a le plus gros congrès mondial des entreprises en faveur du développement durable, et on voit que les individus sont parfois prêts à faire des efforts, mais les entreprises, avec tout leur pouvoir et leurs moyens, sont aussi, dans certains cas, pas toujours, mais sont aussi prêts à faire des efforts, et c'est évidemment majeur comme impact.
Alors on revient aux individus, donc qui sont aussi des salariés d'entreprise, il ne faut pas l'oublier, mais que signifie, Valère Coréard, pour les citoyens, reprendre le contrôle de la chaîne alimentaire ? Est-ce que c'est vraiment faisable quand on vit en ville ?
Oui, c'est parfaitement faisable. Enfin, quand on vit en ville, il y a beaucoup de villes dans le monde, donc effectivement, en fonction d'où on vit, les contraintes ou les opportunités sont différentes. Mais il y a aujourd'hui, notamment dans les villes très urbanisées, des offres extrêmement innovantes qui se sont développées notamment grâce au numérique et qui donnent accès à des circuits plus spécialisé. Il faut de toute façon sortir de l'idée selon laquelle on pourrait tout trouver au même endroit. Je crois que ça a vécu.
Sous-entendu le supermarché. Hein,
mais même pas sous-entendu, c'est même ce que j'allais dire. On ne peut pas tout acheter au même endroit, on ne peut pas tout acheter dans un supermarché, même si ça paraît pratique. Il faut bien comprendre que la première chose à allouer à son alimentation et qu'il faut concéder, c'est du temps. Et une fois qu'on concède du temps et
du temps pour acheter et du temps pour préparer les aliments, c'est
exactement,
ce que vous expliquez bien dans votre
guide. C'est une évidence, et ça permet à la clé arithmétiquement de faire des économies et de changer ou de faire évoluer dans le bon sens sa relation à l'alimentation, qui est, me semble-t-il, assez essentielle à l'existence humaine quand
Mais
même.
Mais les achats d'alimentation en circuit court, pour citer par exemple les AMAP, hein, où on achète des paniers prédéfinis par des agriculteurs directement aux producteurs, donc ça, est-ce que c'est en croissance ? Ça représente combien aujourd'hui ? Où est-ce que ça en est depuis plusieurs années ?
Ah oui, c'est en croissance. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais si j'ai le temps de refeuilleter mon ouvrage, c'est-à-dire que ça se compte en plusieurs dizaines de pourcents de personnes qui régulièrement achètent en circuit court. Alors il y a les AMAP, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Il y a les supermarchés coopératifs.
Où donc les récoltes sont pré-vendues
à
des consommateurs.
Oui, alors là c'est vraiment un deal entre le consommateur et le producteur, avec une rémunération équitable, le principe de ne rien gaspiller et de manger ce que la récolte à apporter avec tous les aléas qu'il peut y avoir. C'est quand même un retour à l'essence même du rapport entre l'agriculteur et le citoyen. Mais au-delà de ça, il y a les supermarchés de coopératifs, en direct producteur, mais il y a aussi des start-up qui se lancent avec la possibilité d'être livrés sur des circuits courts, sur sa région. Je pense à la ruche qui dit oui, je pense au comptoir local, il y en a tout un tas. Et au final, on se retrouve avec une offre, y compris dans certains supermarchés, je pense à Biocoop pour ne pas les citer, qui sont dans une vraie démarche de rapprocher le producteur du consommateur. Donc c'est vraiment une chimère que de dire que c'est compliqué en ville de manger en circuit
Donc,
court.
Ça permet d'économiser du transport, bien sûr, entre autres, de l'énergie. Et quoi d'autre comme bienfait pour la planète?
Pour la planète, d'abord, ça évite le transport. On est dans généralement des fruits et légumes et des produits de saison, donc ça quand même, c'est pas négligeable. On a une transparence vis-à-vis de ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on est en contact direct avec le producteur, qu'on rémunère plus correctement, puisqu'on fait baisser les intermédiaires. Et puis, évidemment, on est généralement dans des pratiques qui sont plus raisonnées. Il y a beaucoup plus de producteurs qui sont en pratique raisonnée, voire bio, qui vendent en direct, que ceux qui ne vendent pas en direct.
L'alimentation, les transports... Oui, je vous en prie, Olivier Blanc.
Je peux permettre de rajouter quelque chose. Je pense que la question de l'alimentation, elle est exemplaire de cette transformation de l'écologie.
Ouais, pour c'est pour ça qu'on a commencé par ça, effectivement. C'est le sujet qui parle le plus, finalement, aux citoyens, aux consommateurs.
Oui, mais parce que aussi, c'est un sujet qui n'est pas seulement au service de la planète, mais au service des gens directement. Et dans l'écologie, dans la consommation, on voit émerger la question de la santé. Et si on prend la santé comme vecteur pour convaincre les gens de faire de l'écologie, on se rend compte que là, on parle à leur intérêt direct, on parle à leurs préoccupations d'assurer la croissance de leurs enfants. Et c'est une révolution, parce qu'on ne parle plus d'agriculture ou d'alimentation pour la planète, mais pour les gens. Et en servant l'intérêt des gens, on sert la planète.
Alors, il faut aussi qu'on parle de pollution, on va y venir dans quelques instants, et donc qu'on parle de transport, et là, ça se complique. Vous nous appelez, les voisins, au 33 1 84 22 71 71, si vous souhaitez nous parler des initiatives citoyennes dans votre ville pour préserver la planète.
On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts, assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts, assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Nouvelle génération, oh, le monde est dans nos mains, donc passons à l'action. Pour les futures générations, oh, il faut changer tout ça pendant que leur monde déconne. Car c'est une question de santé, la terre est en danger. Tout est accéléré par l'homme et tous ses excès. Et je sais que vous sentez que dans l'air pollué, que tout a changé et que ça va mal terminer. Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain, que les erreurs d'hier restent bien hors du chemin. Si la terre se dégrade, ne restons pas que témoins. Yes, I said, il faudra en prendre soin. Nouvelle génération, le monde est dans nos mains, donc passons à l'action. Pour les futures générations, il faut changer tout ça pendant que leur monde du bon.
Rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Elle progresse, c'est la planète qui encaisse. Les marées, le réchauffement, tous les déchets qui la blessent, faut qu'on cesse.
Cette folie-là, cette folie-là.
Les animaux disparaissent, l'écosystème qui s'abaisse. Yo, on fait passer les années, vos trucs dans notre paresse.
On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts, assume ces drames et ces villas, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Dub Inc. décor chez 7 milliards de voisins. On est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on se pose la question, peut-on devenir écologiste, écolo, quand on vit en ville et qu'on ne maîtrise pas tout de sa vie quotidienne? On en discute avec Olivier Blond, qui est en ligne avec nous de Vancouver, pour en finir avec l'écologie punitive, c'est le titre de votre livre, et le guide pratique de Valère Correard. Très pratique, changer d'air, l'air de rien, changer d'air, il y a un jeu de mots évidemment, parce que c'est l'air, la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés, avec certes de grosses menaces qui pèsent sur l'environnement, mais cette nouvelle approche, une écologie de solution. Il nous faut parler des transports. Écoutez le message d'une voisine qui a posté sur WhatsApp. Sita est en Côte d'Ivoire sur le covoiturage.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines, bonjour les filles. Le covoiturage ancré dans la conscience environnementale n'est pas encore une réalité en Afrique, parce qu'on reste encore très attaché au fait de conduire soi-même sa voiture chaque jour et en toutes circonstances. Il y a plutôt un autre type de covoiturage qui, lui, est motivé par des raisons économiques, on doit dire. Et il est pratiqué par des personnes non véhiculées qui se mettent à plusieurs pour partager le coût d'une course de taxi. Mais on ne désespère pas. Je crois que le covoiturage citoyen, celui qui est ancré dans la conscience environnementale, puisse un jour être stimulé par exemple par des travailleurs. Des collègues de service qui habitent le même quartier pourraient par exemple se mettre à plusieurs pour qu'au lieu de 4 véhicules qui prennent la route chaque matin, il n'y en ait qu'un seul. Et le cinquième jour, s'ils le souhaitent, ils peuvent revenir à leur amour. C'est de bonne guerre. Merci Arafi. Bonne journée à tout le monde.
Qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de Sita en Côte d'Ivoire sur cette forme de covoiturage?
Ça existe. Je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire, sans doute si, mais c'est quelque chose qui se généralise. C'est-à-dire, c'est le covoiturage en entreprise. Là, c'est aussi à l'employeur d'essayer de stimuler ça. C'est un bon moyen pour rencontrer des collègues qu'on ne connaît pas forcément, les découvrir différemment, partager un moment. Ça peut permettre d'ouvrir sur d'autres moments de partage. Et la remarque que faisait votre auditrice, c'est intéressante, c'est-à-dire que si aujourd'hui les gens covoiturent parce que c'est une source d'économie, eh bien c'est déjà très très bien. Et finalement, rentrons par ça, j'ai envie de dire, c'était un petit peu l'échange qu'on avait avec Olivier Blond à l'instant. La santé pour l'alimentation, l'économie pour les transports. Quoi.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la voiture devient un vrai problème. Dans votre guide, vous citez une méthode de désintoxication de la voiture pour l'usager. Pas évident, ceci dit.
Non, c'est pas évident. En fait, ça paraît pas évident, mais comme toute habitude, vous savez, quand on a une habitude, c'est difficile de la changer. C'est-à-dire que l'humain aime bien baliser sa vie quotidienne d'habitude, ça nous rassure, et puis on a du mal parfois à imaginer qu'on pourrait faire autrement. Et ce que propose Ludovic Bu, qui est l'expert de ce chapitre sur la mobilité, c'est une petite méthode toute simple pour se désintoxiquer de sa voiture, en commençant par une chose, c'est de continuer à la prendre normalement. C'est-à-dire on ne change rien, mais on note pendant un mois ou deux semaines ses habitudes de déplacement en voiture. Et là, on va commencer à dire, tous les jours, je la prends pour ça, ça, ça. Et on va tester sur une de ces habitudes un mode de déplacement alternatif. Alors, ça peut être le vélo, le bus, la trottinette, ce qu'on veut. Et ce qu'explique Ludovic, c'est qu'on va découvrir à partir de là un nouveau monde qui s'ouvre. Parce que, il faut se dire la vérité, le marketing de la voiture, c'est de nous faire croire à coup de millions et de dizaines de millions d'euros de pub que c'est un lieu qui est sûr, dans lequel on ne stresse pas, dans lequel on va prendre le temps et qui est le synonyme de liberté. Enfin, quand on cherche une place ou quand on est dans les embouteillages et qu'on est en train de respirer le pot d'échappement de la personne qui est devant, je ne sais pas si on est vraiment dans la liberté et le no-stress.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les problématiques de pollution à l'échelle internationale, Olivier Blond, le problème des transports est devenu crucial. Quelles sont les solutions alternatives qui se développent selon les pays, selon les villes ?
Alors, en fait, il y a une infinité de solutions parce qu'il y a une infinité de progrès et de manières de ne pas recourir à la voiture. Parce que finalement, on peut disons, diviser les solutions en trois catégories. La première, c'est que chaque voiture individuellement émette moins. Donc ça, c'est tout ce qui est transformation autour des moteurs électriques, par exemple, ou des voitures moins polluantes. Il y a tout ce qui est améliorer l'usage de la voiture, donc par exemple le covoiturage. Évidemment, quand on est deux dans une voiture, eh ben, on pollue beaucoup moins que si on est deux fois une voiture. Mais ce que j'aimerais proposer aussi comme solution, c'est diminuer l'usage, le besoin de mobilité. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit dans les grandes villes, c'est que les gens vont perdre une heure de leur vie tous les jours dans les transports, à aller jusqu'à leur travail.
Pour aller travailler, on est bien d'accord.
Et voilà. Et une vraie solution, ce serait d'encourager le télétravail. Que ce soit de manière ponctuelle ou régulière, avec par exemple des centres périphériques de coworking. Et ça peut paraître un petit peu étonnant, mais ça marche très bien. Et ça, alors pour le coup,
la France n'est pas en avance sur ce point-là, même si aujourd'hui c'est entré dans la légalité. Les entreprises n'y sont pas si favorables que cela, et les salariés non plus d'ailleurs.
C'est un problème de confiance. C'est clairement une révolution, à mon avis, qui est en train de prendre place sous nos yeux, parce que les mentalités changent, et clairement, ça a un impact en termes d'économie d'énergie, de limitation de la pollution et de bien-être pour les gens, qui est immense. Toutes les études scientifiques, et il y en a de nombreuses, le montrent.
Le télétravail va se développer, vous pensez, Valère Coréard, pour des raisons environnementales ?
Je ne pense pas que ce soit pour des raisons environnementales, sincèrement. Si le télétravail se développe, et il se développe, je pense que c'est pour des raisons d'abord générationnelles, c'est-à-dire qu'on a là des jeunes travailleurs qui arrivent sur le marché du travail, qui sont, comme on dit dans le jargon, digital native, donc ils sont habitués à consommer ici, maintenant, tout de suite, il faut que les choses aillent vite, ils se sentent libres, ils cherchent pas forcément un contrat à durée indéterminée, ils sont prêts à être davantage dans la précarité, voulue ou subie, ça dépend des cas évidemment, mais en tout cas, on a une génération qui se sent, je crois, très libre, qui arrive sur le marché du travail. Et il est clair que les relations employeurs-salariés sont en train et vont devoir sans doute changer. C'est-à-dire ce lien de subordination qui me paraît quand même, j'allais dire suspect, non, mais un peu artificiel et problématique, va sans doute évoluer vers du coworking, y compris entre l'employeur et l'employé. Donc on va sans doute se diriger aussi vers une relation de confiance revue et donc le développement du télétravail sans aucun doute.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous souhaitez partager avec nous des initiatives de citoyens engagés pour préserver la planète dans votre pays, dans votre ville, surtout puisqu'on parle bien de cette écologie compliquée à mettre en place dans les villes. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone sur WhatsApp.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On donne la parole à un voisin qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les fidèles auditeurs de 7 milliards de voisins.
Et bien on est ravis de vous accueillir. Vous êtes un citoyen engagé dans des actions de nettoyage, de plages, de sensibilisation, d'après ce que j'ai compris. Mais vous avez dit à notre standard que les jeunes, selon vous, ne sont pas suffisamment écoutés par les autorités lorsqu'ils ont des initiatives.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait, c'est des difficultés rencontrées par les jeunes. Moi, particulièrement, je suis jeune activiste et j'élabore des projets de sensibilisation tels que, par exemple, des projets de nettoyage. Récemment, on avait un projet où on a soumis à une autorité locale, mais qui n'a pas été, disons, qui n'a pas eu une suite favorable. Donc, c'est des difficultés rencontrées par les jeunes.
Qu'est-ce que c'était exactement comme projet?
Bon, le projet, c'était juste un projet de nettoyage, d'assainissement d'un quartier.
À Conakry.
À Conakry. Mmh, mmh. Donc, on a soumis au premier responsable du quartier, c'était le chef de quartier.
Ouais.
Mais bon, ça n'a pas eu une suite favorable. Et ce qui est déplorable, vous pouvez avoir des jeunes engagés, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui consacre leur temps à aider les gens gratuitement. Mais s'il y a des personnes engagées d'une manière bénévole, il faudrait que ces personnes-là soient encouragées pour que des actions citoyennes puissent être posées dans la société. Oui.
Vous avez le sentiment, Amadou, qu'il y a un vrai creuset, une vraie rupture entre votre génération. Je ne sais pas quel âge vous avez, Amadou.
J'ai 22 ans.
Oui, 22 ans.
Oui.
Et est-ce que vous vous sentez vraiment déconnecté par rapport au pouvoir public et à ceux qui tiennent le pouvoir dans les communes?
Bon, c'est oui. D'une part, oui, parce qu'aujourd'hui, tous les projets publics, il y a en fait l'absence de jeunes. Donc les jeunes sont un peu écartés. Donc c'est au niveau juste de la grande partie ou de disons les actions publiques et les jeunes sont un peu dissociés.
Oui.
Parce que là, par exemple, moi, jeune activiste, quand j'essaie d'élaborer un projet, ce sont les jeunes qui doivent s'engager activement pour aider les gens, et non les vieux. Les vieux ne peuvent pas le faire. Les vieux, tout ce qu'ils peuvent, en fait, dans la contribution dans la société, elle est à deux niveaux. Soit vous contribuez financièrement, ou vous contribuez physiquement.
C'est ça. Et vous, vous avez du temps et de l'énergie.
Voilà. Le jeune n'a pas un moyen économique, c'est vrai. Mais il a un moyen, disons, une capacité physique pour aider sa société. Et donc, s'il met sa capacité physique... il met sa capacité physique pour aider la société. Je pense que cela est encourageable parce que c'est la première d'ailleurs force pour aider une société.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont du temps, qui n'ont pas d'emploi, qui seraient prêts à se mobiliser. Alors bien sûr, j'imagine aussi que la première préoccupation des jeunes à Conakry, c'est d'abord de trouver un travail. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, et effectivement, on peut occuper son temps libre à améliorer son environnement dans la vie quotidienne. Valère Coréard.
Oui, je me posais juste une question et ça me fait un peu penser à la façon dont j'ai essayé d'interpeller le lecteur dans mon guide en commençant par ses intérêts à lui. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à creuser, hein, je veux pas, j'ai pas la solution toute cuite, mais d'aller voir le chef du quartier, lui dire, ben voilà, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes priorités à toi, et de partir de ses besoins à lui pour voir si ça peut coller avec des enjeux environnementaux pour commencer quelque chose quelque part et qu'il y ait un lien de confiance qui se fasse et une discussion qui se fasse. Parce que parfois, c'est juste un problème de se comprendre. Mais les sujets peuvent se recouper, mais il faut amorcer le dialogue, quoi.
Oui, et puis les anciens aiment bien sentir que c'est eux qui ont l'initiative.
Exactement.
N'est-ce pas, si vous voyez ce que je veux dire, Amadou ?
C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Je partage votre avis, mais on a fait la même chose. Parce que quand j'ai initié récemment le projet d'assainissement dans le quartier, on est allé rencontrer le chef de quartier, on l'a expliqué, il dit mais c'est vraiment bien. Et moi j'ai besoin de jeunes engagés, de jeunes qui sont sérieux,
Alors...
qui peuvent m'accompagner dans mes actions.
Qu'est-ce qui a coincé alors?
Bon, on lui a écouté pendant un bon moment, il ne nous a pas répondu, ni un appel, ni un mail, ni rien du tout. Voilà, on s'est redirigé vers lui, il nous a dit, bon, il faut attendre un petit temps, on va essayer de vous recontacter pour qu'on puisse le faire.
Si
nous avions les moyens économiques, on pouvait faire parce que c'était de notre devoir.
Une forme d'inertie.
Donc, on pouvait le...
Bien sûr, c'est intéressant. Merci beaucoup Amadou de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on donne la parole à Loseni Togosi Diarasuba qui est à Abidjan. Bonjour Monsieur Diarasuba.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Alors hier, c'était la Journée mondiale de l'environnement, ça ne vous a pas échappé, sous l'égide des Nations Unies, qui a mis l'accent sur le plastique avec un rapport sur les océans qui sont désormais transformés en soupe de plastique, sur la consommation aussi du plastique. Je le disais en début d'émission, 5000 milliards de sacs plastiques consommés par an par nous tous. Vous appartenez au réseau professionnel du développement durable, c'est un réseau d'associations ivoiriennes qui mènent des actions de protection de l'environnement. Vous allez organiser dans les jours qui viennent le nettoyage de la plage de Grand Bassam. Ça va se passer samedi prochain, c'est ça?
Oui, samedi prochain. Mmh. Il faut dire que cette activité entre dans le cadre des activités de célébration des deux journées en question et des océans que la BAD organise et à laquelle nous sommes associés en tant que réseau professionnel du développement durable, ainsi que ONU Environnement et bien d'autres organisations locales.
Mmh. Je ne sais pas si vous avez entendu le message précédent de cet auditeur qui nous appelait en direct de Conakry, qui disait il y a des jeunes qui ont des initiatives, qui ont envie de se mobiliser physiquement, parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers, et les chefs de quartier, les élus locaux, bref, les anciennes générations font preuve quand même d'une grande inertie par rapport à cette envie de mobilisation des jeunes. Est-ce que, comment vous réagissez par rapport à ce constat-là?
C'est déjà beaucoup décevant de savoir que des gens puissent avoir des types d'initiatives aussi salutaires et qu'elles ne soient pas soutenues. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que ça dépendrait peut-être des réalités de chaque secteur, de chaque région, et puis encore de l'intérêt particulier que les personnes que vous approchez peuvent accorder à la question en réalité.
Mmh. Comment va concrètement se dérouler le nettoyage de la plage de Grand Bassam?
On va se retrouver à partir de 8h en tant que bénévole et on va se partager
samedi prochain.
Oui, samedi prochain à Grand Bassam, qui est une ville historique. Et la plage de Grand Bassam, il faut le dire, c'est l'une des plages les plus fréquentées de la Côte d'Ivoire. C'est des milliers de personnes qui fréquentent cette plage chaque année. Et pour nous, donc, à l'occasion de cette journée-là, de la lutte contre la pollution plastique, c'est interpeller surtout la jeunesse et les populations en général, les autorités, de ce que notre plage reste pour nous quelque chose d'emblématique, pas faire la renommée de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, et c'est notre devoir à nous de prendre soin de cette plage.
Juste en un mot, vous pouvez nous décrire la situation de cette plage à l'heure actuelle en termes de déchets, juste en quelques mots?
Ah oui, il faut dire que quand vous arrivez sur la plage de Grand Bassam, les déchets se font pas rares. Tous les jours, on en trouve justement parce que les plages sont très fréquentées. Mais ce qu'on n'a pas encore pu réussir véritablement, c'est inculquer dans l'esprit des personnes qui fréquentent la plage, l'esprit de la propriété, du civisme écologique.
Où vont être envoyés les déchets que vous allez ramasser?
Dépend ces déchets, d'abord on les trie. Il faut le dire, et quand on a fini de les trier, maintenant on peut les conduire vers les grands dépôts, à partir desquels ils seront évacués dans d'autres centres. C'est vrai qu'il n'y a pas encore trop de centres de traitement des déchets.
Non, la Côte d'Ivoire va inaugurer dans quelques semaines un tout premier centre d'enfouissement des déchets, mais la question se pose, est-ce que c'est vraiment une solution écologique, les centres d'enfouissement de déchets?
Non, je ne suis pas sûr que ce soit l'unique solution qu'il faille voir. Il faut peut-être songer aussi à trouver les moyens de la transformation et puis intégrer aussi le système de l'économie tournante, en fait.
Qui créerait beaucoup plus d'emplois sur le continent africain qu'un centre d'enfouissement?
Justement, parce que c'est là la vraie question. En 2013, l'État ivoirien a pris un décret qui interdisait la production de chafets plastiques, par exemple.
Qui n'est pas respecté aujourd'hui.
Oui, il faut dire que ce n'est pas respecté véritablement, d'autant plus que dans les petites surfaces, on peut encore s'en procurer, et au grand bonheur d'ailleurs des populations qui les utilisent. La question, c'est pourquoi donc faut trouver le moyen, justement. Et c'est plus de dizaines de milliards qui sont dégénérés par ce business informel en Côte d'Ivoire. Et c'est des populations qui vivent, c'est plus de 7000 personnes qui en profitent.
Effectivement, remonter la chaîne et ne pas se préoccuper seulement des déchets que vous allez ramasser, mais c'est combien utile. Hein. Donc ça sera samedi à partir de 8h pour tous les bénévoles sur la plage de Grand Bassam. Je crois que j'ai bien donné le rendez-vous. Merci à vous, Lesseni Togossi Diarra Souba. Peut-être un mot de réaction sur le traitement des déchets, Olivier Blond, parce que c'est à la fois très complexe, il y a beaucoup d'enjeux financiers qui sont en jeu. Quelles sont aujourd'hui les solutions d'avenir pour la protection de la planète?
Ce qui est intéressant, c'est que sur la question du plastique, il y a une partie importante des plastiques qui vont dans les océans qui viennent de notre consommation. Et par exemple, les machines à laver de linge en lavant vont aussi décrocher des petits bouts de molécules plastiques pour les tissus qui sont d'origine plastique. Et donc, elles vont contribuer de manière conséquente à la pollution. Une chose très 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 simple, c'est de laver à basse température. Aujourd'hui, il y a des lessives qui permettent de laver sans chauffer l'eau. Et là, on a un système qui est gagnant-gagnant-gagnant, puisque on va dépenser moins d'argent pour faire chauffer l'eau. On va avoir des cycles de chauffage et de lavage qui vont être plus courts. Et de cette manière-là, on va, en général, moins dégrader les vêtements, ce qui fera qu'on aura moins de pollution plastique dans les océans, et surtout qu'on aura des vêtements qui vont moins s'abîmer à cause du lavage et qui vont pouvoir donc rester plus longtemps qu'on aura besoin de racheter.
Valar Coréard, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si on résumait votre guide sur tous ces gestes du quotidien que nous effectuons souvent sans nous poser de questions, quels sont les changements simples qu'une famille peut adopter en vivant en ville?
Bon, moi j'habite en ville et j'ai tout essayé. C'est-à-dire que j'ai 8 chapitres et ces 8 chapitres, je me les suis appliqués à ma famille et moi depuis 3 ans pour voir ce que ça donnait. Aujourd'hui, je me fournis en électricité renouvelable. Ça, c'est extrêmement simple à faire.
C'est-à-dire concrètement ?
C'est-à-dire que je change de fournisseur et puis j'achète de l'électricité qui est produite par le vent, le soleil ou l'eau. Et donc je préempte pas les ressources naturelles et je puise pas dans le nucléaire. C'est un signal que j'envoie au marché de l'électricité à mon échelle. Je me nourris exclusivement de produits en circuit court, bio, raisonné et de saison. Je fais tout moi-même. Je me déplace en vélo beaucoup plus qu'avant. J'ai perdu ce réflexe voiture et j'essaye d'être également attentif au temps que je consacre à mes activités parce que la question de la gestion du temps permet aussi de reconscientiser un certain nombre de choses et j'en passe. Mais si vous voulez, en fait, la transformation, elle se fait assez facilement, encore une fois pour la même raison, c'est que les bénéfices, ils sont avant tout personnels, individuels et ensuite... par ricochet, ils sont collectifs. Aujourd'hui, je me sens en meilleure santé, je suis plus en phase avec mes valeurs, mieux dans mes pompes, je dépense pas plus d'argent, ça c'est aussi une hérésie. Par contre, je dépense plus de temps, ça c'est une réalité. Mais j'ai le sentiment d'avoir repris le contrôle de ma vie et de faire des choix de manière plus éclairée. Donc c'est toute l'ambition de ce guide, ce modeste guide, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont super, c'est de donner un bout de liberté au lecteur. Après, il en fait ce qu'il veut, mais j'ai essayé de donner l'opportunité au lecteur de comprendre les enjeux et d'essayer de voir comment on peut changer et surtout pourquoi, encore une fois, en commençant à penser par soi-même, sa famille et ses centres d'intérêt.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les consommateurs, comme on dit maintenant, qui peuvent faire bouger les pouvoirs publics? Parce qu'on le voit bien, entre le vote des lois, les renoncements et puis les petits gestes de chacun des citoyens, il y a souvent de grosses déceptions.
Oui, et puis on dit aussi que ces petits gestes, ils servent à rien. J'entends les experts ou les cyniques dire que c'est inutile et que c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors d'abord, comme on le disait tout à l'heure avec Olivier Blanc, je pense que c'est faux parce que c'est un changement de paradigme et que donc on a une autre vision de la vie quotidienne, de la vie en société et de la vie en communauté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes tous consommateurs et citoyens. Donc ça veut dire que le pouvoir, nous l'avons. Nous sommes le marché et les électeurs. Il suffit à un moment donné qu'il y ait un phénomène de masse qui soit suffisamment puissant pour imposer un tempo, une dynamique, une direction. Donc il ne faut pas être pessimiste et commencer à dire que ça ne sert à rien. C'est faux. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces, elles s'adaptent au marché. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a du bio à tous les étals. Alors il est plus ou moins bon, mais il y en a à tous les étals. Ça, c'est un changement de paradigme.
C'est le consommateur qui envoie donc des signes politiques et des demandes et des exigences.
Mais plus
finalement.
Que des signaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on impose les choses, on renverse la table.
Merci à vous deux en tout cas. Valère Coréard, vous avez publié Changer d'air, l'air de rien aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à vous Olivier Blond d'avoir été parmi nous de si bon matin. Vous venez d'arriver à Vancouver, bon séjour au Canada. Vous avez publié Pour en finir avec l'écologie punitive, publié chez Grasset. Et merci à Leceni Togossi Diarasuba du réseau professionnel du développement durable en Côte d'Ivoire. Merci aussi à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Marion Goubard. Toutes nos émissions sont en libre service, vous le savez. Ça coûte rien sur l'appli RFI Pure Radio. Vous cliquez sur magazine et vous réécoutez les sujets de votre choix que vous partagez. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du logiciel Parcoursup, système d'affectation des lycéens dans les universités françaises. L'autre angoisse avant le bac. Deux semaines après le lancement de ce logiciel, les trois quarts des élèves ont reçu au moins une proposition d'affectation. Mais cette nouvelle sélection à l'entrée de l'université est-elle la meilleure réponse au manque de place dans les facultés? Quelle chance de réussite pour les lycéens qui ne peuvent pas choisir leur filière? L'État doit-il ouvrir plus de places dans les cursus professionnels? On ira voir aussi en Grande-Bretagne et en Allemagne où ça se passe totalement différemment. Comment sont affectés les lycéens dans les universités par rapport à leurs souhaits? Rendez-vous demain, même heure, même endroit, en direct.